l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Fil de l'information, deux titres en seulement un mois, soit du 15 mai au 15 juin 2026. 303 blessés de guerre ont été recensés dans les hôpitaux, soutenus par le CICR au Sud Kivu et au Nord Kivu. Ce chiffre constitue une hausse d'environ 30% comparativement au mois précédent. Nombreux parmi ces blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de Fizi, Uvira et Bukavu, suite à l'intensification des combats dans les hauts plateaux. Et après la guérison de tous les malades à Ebola dans les zones sous administration de l'AFC M23 avec la sortie d'hôpital du tout dernier, voyageurs et petits commerçants plaident pour la réouverture des frontières avec le Rwanda en vue de faciliter la libre circulation des personnes et l'exercice du petit commerce transfrontalier. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedicalou.
Commençons par cette information. Pour leur grand retour sur la scène mondiale, après des décennies d'absence, les Léopards de la RDC ont réalisé l'exploit de tenir en échec le Portugal lors de leur entrée en lice dans le groupe K de la Coupe du Monde 2026. Dans un match âprement disputé, les Congolais ont fait preuve d'un courage et d'une solidité remarquable face à l'une des nations les plus titrées du football mondial. Si João Neves avait ouvert le score d'une superbe tête pour le Portugais, c'est Johan Wissa qui a répondu avec sang-froid pour inscrire le but de l'égalisation, entrant ainsi dans les livres d'histoire comme le tout premier joueur congolais à marquer en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, visiblement en méforme, n'a pas pesé sur la rencontre, laissant les 100 millions de Congolais exulter devant ce résultat historique. La prestation des Léopards de la RDC a été convaincante et elle est de bon augure pour la suite de la compétition. Telle est la pensée de Benin Koumé Roy, analyste sportif et consultant de Radio Mandeléo pour la Coupe du Monde FIFA 2026.
On a vu comment Sébastien Desabre avait préparé son équipe dans les matchs de préparation avec ce système de 5-3-2 qui a tenu face au Danemark, qui est une autre grande équipe du top 20 mondial. Réussir à faire la même chose contre le Portugal, qui est cette fois-ci cinquième au classement FIFA, c'est quelque chose à féliciter de la part du technicien français et de ses joueurs, bien sûr, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et respectent les consignes du coach. Donc le plan de jeu, c'était de laisser le ballon à l'adversaire, au Portugais, et blinder le milieu de jeu. Et voilà, le Portugal a eu 75% de possession de balle. Mais malgré ça, ils ont moins tiré que les Congolais, seulement 7 tirs contre 8 pour les Congolais. Un seul tir cadré pour le Portugal, et c'était le but. Contre 2 tirs cadrés pour la RDC. Donc le match, tactiquement, il était vraiment d'un très haut niveau.
L'actuelle constitution de la RDC permet le vivre ensemble entre les communautés et offre une base suffisante pour garder les équilibres. Une initiative de son changement vise à maintenir un régime au pouvoir et violer le pacte républicain pour lequel beaucoup des Congolais ont versé leur sang. C'est ce qu'indique Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle, au lendemain de l'adoption par le Sénat de la loi référendaire. Dans une interview accordée à Radio Mandeléo, Maître Jean-Claude Katende appelle à la mobilisation générale pour la protection de l'actuelle constitution. Jean-Claude Katende.
Je demande à la population congolaise, où qu'elle se trouve, de pouvoir se mettre derrière la protection de la Constitution. Et c'est pour ça que nous, société civile, nous avons créé le Conseil pour la défense de la Constitution. Cette Constitution, nous la défendons parce que nous pensons qu'elle est la base suffisante pour garder les équilibres, pour permettre de vivre ensemble entre plusieurs communautés. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas abandonner la défense de la Constitution, tout simplement parce qu'il y a certains d'entre nous qui veulent continuer à jouir du pouvoir, alors que leur gestion du pays est tout à fait calamiteuse. Donc, nous devons nous mobiliser partout où nous sommes, par des écrits, par la participation à des marches ou à des actions pacifiques, pour montrer au pouvoir actuel que nous ne sommes pas prêt à accepter que quelqu'un puisse obtenir un troisième mandat alors que la Constitution les lui interdit.
Jean-Claude Katende, président de l'AZADO. Et 303 blessés liés aux conflits armés et d'autres situations de violence ont été enregistrés entre le 15 mai et le 15 juin dans 5 hôpitaux soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ces chiffres représentent une augmentation d'environ 30% par rapport à la période comprise entre le 15 avril et le 14 mai de cette année en cours. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge CICR rendu public à l'occasion du premier mois suivant la déclaration officielle de la 17e épidémie d'Ebola. Le contenu avec Omer Moudekereza.
Dans ces communiqués, cette organisation humanitaire indique que cette hausse des admissions intervient dans un contexte où les autres établissements sanitaires affichent de nouveau des taux élevés d'occupation des lits allant vers la saturation. Moussa Badji, coordinateur médical du CICR en RDC, qui signe ses communiqués, indique que la crise sanitaire provoquée par la maladie à virus Ebola n'a pas freiné les urgences médicales liées au conflit. Bien au contraire, précise-t-il, les équipes du CICR demeurent sous pression avec des admissions continues des blessés par armes. Selon ces communiqués, les hôpitaux de Bukavu, Uvira et Fizi au Sud Kivu ont pris en charge 170 blessés, soit 56% des patients admis dans les structures soutenues par le CICR. Signe d'une intensification des hostilités dans la région des Hauts Plateaux. Cette 17e épidémie d'Ebola vient renforcer la vulnérabilité des populations déjà affectées par les conflits armés et d'autres situations de violence, les déplacements de populations et des difficultés d'accès aux services essentiels, précise ces communiqués. Dans la région du Kivu, l'utilisation par les parties au conflit d'armes explosives dans des zones peuplées continue de générer de graves conséquences humanitaires pour les populations civiles. Les communiqués parlent ainsi des morts et des blessés, une contamination des terres dans des espaces agricoles par les restes explosifs des guerres. Plus de 16% des patients pris en charge dans les hôpitaux soutenus par les CICR sont des victimes des blessures causées par des explosions, déplore Moussa Badji. Pour rappel, entre janvier et mai 2026, les CICR a réussi à prendre en charge près de 1400 blessés par arme soignés dans les 5 hôpitaux bénéficiant de son soutien dans la région du Kivu, à savoir l'hôpital général de référence de Beni et l'hôpital Sebekandosho de Goma au Nord Kivu, ainsi que l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, l'hôpital général de référence d'Uvira et l'hôpital général de référence de Fizi au Sud Kivu. En ce qui concerne l'assistance aux enfants sortis des forces et groupes armés exposés au recrutement, 54 adolescents de 9 à 19 ans ont été sortis d'un lieu de détention au Nord Kivu, dont 47 ont pu être réunifiés avec leur famille.
Et la mise en place des mécanismes de signalement des discours haineux suivis de l'utilisation des systèmes de modération capables de détecter, analyser et repérer les contenus dissimulés ou déguisés, c'est parmi les méthodes qui contribueraient à la prévention des discours de haine au sein des communautés. À cela s'ajoute la réduction de l'amplification automatique de ces contenus, notamment par la limitation ou la désactivation de la visibilité des comptes qui propagent et alimentent la haine. C'est ce que pense Colette Salima, actrice en Peace Building, en marge de la journée internationale des luttes contre les discours de haine célébrés les 18 juin de chaque année. Détail Myriam Mofano.
Elle estime que pour limiter la propagation des discours haineux, il est essentiel d'agir au niveau communautaire. Cela passe notamment par la sensibilisation des citoyens et l'apprentissage de bonnes pratiques permettant de répondre à certaines provocations ou publications offensantes sans pour autant nourrir la haine ou encourager les conflits. En ce qui concerne la gestion des outils de l'intelligence artificielle, bien qu'il demeure complexe, Colette Salima insistait sur la vérification des informations et des contenus générés avec leur diffusion dans le but de lutter contre la désinformation. corruption et la propagation des fausses nouvelles. Colette Salim a appelé la population, en particulier les jeunes, à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable, éthique et réfléchie, afin qu'elle demeure un outil des progrès, des cohésions sociales et des promotions du vivre ensemble, plutôt qu'un vecteur de division et de haine.
Je saisis cette occasion pour appeler toute la communauté de Bukavu et du Sud Kivu que la haine en ligne n'est pas juste des mots qu'on prononce. La haine en ligne, elle prépare souvent des terrains. Elle a planifié un terrain à la violence, une violence qui est vraiment réelle. Alors dans un contexte où le conflit s'aggrave du jour au jour, ça devient urgent de protéger nos communautés contre la manipulation, la peur et même la stigmatisation. L'intelligence artificielle, ça peut être un outil de paix, comme j'essaie de le démontrer, mais ça peut être aussi un amplificateur de haine. Tout dépend en tout cas de la manière dont elle est conçue, utilisée et même encadrée. C'est pourquoi à cette occasion, j'appelle chacun, utilisateur de l'IA, jeunes, médias, acteurs communautaires ou même les institutions, à agir avec plus de responsabilité. Un commentaire de haine aujourd'hui, c'est une injustice demain. Il nous faut juste travailler plutôt à utiliser cette intelligence artificielle correctement pour renforcer le respect, la tolérance et la vérité.
Elle insiste également sur la nécessité de ne pas accorder une confiance aveugle à tous ceux qui circulent sur les plateformes numériques en développant un esprit critique et responsable face au contenu consulté. Cette actrice en peace building recommande par ailleurs la formation de médiateurs pouvant apaiser les discussions entre communautés.
Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Maindeleo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Maindeleo, l'onde qui vous unit.
Nous changeons de chapitre à présent. La province du Sud Kivu n'a aucun cas actif d'Ebola depuis mardi 16 juin 2026. Le dernier malade est sorti guéri de l'hôpital le mardi dernier à Bukavu après avoir été testé négatif pour la deuxième fois. Cette précision a été donnée par le docteur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint de l'AFSAM-23 et responsable de la cellule des ripostes contre le virus Ebola dans les zones sous administration du mouvement. Dans ces entités, il a été recensé 4 cas dont un décès, 3 guéris, et à ce stade, il n'y a aucun cas actif, indique Freddy Kaniki. La vague des premiers cas est contenue, mais d'autres sont envisageables, surtout avec la fluidité des mouvements vers la partie nord de la province du Nord Kivu, qui est en contact direct avec l'Ituri, considéré comme épicentre de la maladie, clarifie le docteur Freddy Kaniki. Il en parle au micro des confrères de la cellule de communication de l'AFC AM23.
Je pense que nous avons déjà une mainmise sur cette vague d'épidémie. Et si on a d'autres cas dans les 2 semaines qui viennent, ces cas proviendront des gens déjà isolés. Je considère déjà cette vague comme étant contenue, mais sûrement on aura d'autres vagues. Et la Butembo, Beni, Ituri, c'est vraiment des foyers, des épicentres. Et il y a la fluidité des mouvements des populations, on ne peut pas empêcher aux gens de voyager. Et donc on aura sûrement d'autres cas, mais nous sommes en train de nous préparer, surtout dans le sens des communications de risques, engagement communautaire, un peu élever les niveaux d'alerte pour que les gens puissent appeler les numéros verts chaque fois qu'il y a un cas suspect. Le plus tôt on les découvre, le mieux on les gère.
Malgré l'absence des cas actifs déclarés, celui-ci invite les habitants du Sud Kivu à respecter les mesures barrières pour prévenir d'autres contaminations. Et les autorités sont appelées à accélérer les pourparlers autour de la réouverture des frontières entre la RDC et le Rwanda à partir de Bukavu et de Goma. Ce plaidoyer émane des femmes petites commerçantes qui font le commerce entre le Rwanda et la RDC en passant par la frontière Ruzizi 2 et qui évoluent au marché Lakats dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Les détails avec Hélène Boudjiriri.
Répondant aux questions des radios Maindeleo au cours d'une descente effectuée sur place, ces commerçantes et d'autres habitants rencontrés justifient leur demande par le fait que la maladie à virus Ebola a été maîtrisée en Provence telle qu'annoncée par les autorités en place. Selon elles, vu qu'il n'y a plus de cas actifs de cette maladie en Provence, aucune raison ne justifie le fait que les frontières restent fermées comme c'était la seule raison qui a conduit à cette fermeture. Ces femmes font savoir que la fermeture des frontières a
affecte négativement leurs activités du fait que les commandes se font par téléphone, ce qui ne leur donne aucune possibilité de vérifier la qualité ou encore la quantité des produits reçus. Pour elles, la réouverture des frontières va leur permettre de se rendre seules dans les marchés du pays voisin pour faire les choix de leurs marchandises et ainsi vendre sans beaucoup de difficultés. L'une d'elles, Aimé Namoulissa, en parle.
Ça ne nous arrange pas parce que depuis la fermeture de la frontière, nous traversons beaucoup de difficultés, notamment la famine, surtout le manque d'argent. Nous souhaitons la réouverture de la frontière car c'est là notre champ. Si nous ne vendons pas, nos familles peuvent mourir de faim. Nous demandons la réouverture de la frontière afin de nous permettre de commencer à traverser comme c'était le cas auparavant. La marchandise que nous achetons, nous ne savons pas si elle est de bonne ou mauvaise qualité. Nous envoyons l'argent sans connaître la marchandise que nous allons acheter. Des fois, la qualité et la quantité commandées ne sont pas celles reçues. C'est ce qui constitue le problème que nous traversons actuellement.
Ces femmes et d'autres requérants rassurent par ailleurs qu'ils sont suffisamment sensibilisés sur le respect des mesures barrières pour lutter contre les virus à Ebola et se disent prêts à contribuer aux efforts des autorités dans cette lutte. Précisons que des centaines d'autres personnes ne peuvent pas aujourd'hui rejoindre leur poste d'attache, leur domicile ou encore effectuer leur mouvement à la suite de cette fermeture des frontières. Une situation qui réduit déjà les chances pour plusieurs d'entre eux d'évoluer dans leurs activités quotidiennes.
Et dans cette période de crise sécuritaire persistante, dans l'est de la RDC, les forêts, les parcs et les aires protégées subissent une forte pression humaine. Alors que l'humanité célèbre la journée mondiale des luttes contre la désertification et la sécheresse, cette pression humaine sur les forêts continue de dégrader l'environnement, exposant des vastes régions aux effets du changement climatique avec des conséquences parfois irréversibles sur la production agricole et animale. Qu'en est-il, Alain Kabika?
En effet, des alertes et des organisations de la société civile dans différents territoires font état de la coupe illicite et accentuée d'arbres dans les aires protégées, l'exploitation à grande échelle des espèces rares encouragées par des bandes armées, les braconnages et l'exploitation des ressources naturelles. Dans les parcs nationaux des Kahuzi-Biega-PNKB par exemple, les dernières informations sont particulièrement alarmantes. L'on parle de plusieurs hectares déjà déboisés, décalés et Mubugu jusque dans la partie comprise dans les hauteurs des groupements des Miti, Bugore et Irambi-Katana dans les territoires des Kabari. Sur l'ensemble de ces taxes un peu plus loin, ce sont des marchés qui se sont créés avec la vente des produits ligneux issus du parc national des Kahuzi-Biega et leurs environs principalement dans des réserves et ou forêts. Un rapport de 2024 parle d'au moins 1500 arbres abattus par jour avec plus de 25 tronçonneuses actives dans chacun des axes, une pratique qui se poursuit jusqu'à ces jours, mettant en péril cette réserve du patrimoine mondial de l'humanité. À ces pratiques s'ajoute un réseau de trafiquants de substances minérales qui bénéficieraient de la protection des bandes armées. En effet, des rapports font état de la présence des bandes armées entretenues pour faciliter l'exploitation des minerais d'étroité dans les parcs, accentuant sa vulnérabilité. Loin du parc, principalement dans les territoires des Mwenga, Fizi, Shabunda et Kalehe, ce sont les activités de déboisement qui se poursuivent dans les forêts, réserves et communautaires, allant jusqu'à atteindre les espèces les plus emblématiques. Malgré les alertes et la multiplicité des rapports qui démontrent la dangerosité de ces pratiques, voire les conséquences déjà visibles en termes de changement climatique, les autorités tardent à prendre des mesures concrètes. Pour le professeur Serge Ndjadi, enseignant-chercheur et doyen de la faculté d'agronomie et environnement à l'université évangélique en Afrique UEA, l'enjeu sur lequel il faut travailler, c'est la dégradation accélérée des terres dans la région. Il propose différents leviers, notamment réduire la dépendance au bois énergétique, améliorer les pratiques agricoles en aspect à l'environnement et sécuriser les droits fonciers locaux. Le professeur Serge Ndjadi en parle.
Face aux défis liés à la préoccupation, comment réduire la pression sur les ressources naturelles? Je crois qu'il faudra agir essentiellement sur trois leviers simultanés. La sensibilisation en soi, en elle-même néanmoins, ne suffit pas malheureusement. Il faut agir sur trois leviers, évidemment. Réduire la dépendance au bois énergie, d'autant plus qu'environ 95% des ménages de Bukavu utilisent le charbon des bois. Bon, la solution, nous pensons qu'il serait peut-être envisageable de mettre en place et de vulgariser les foyers améliorés, les biogaz, les micro-hydro, bon, micro-barrages évidemment aussi. Parce que chaque foyer amélioré, c'est autour de 2 tonnes de bois sauvés par an. Que chaque famille devient gardienne d'un bout de sol. Quand la paix sera établie, tout le monde sera dans son coin. Il faudra que cette terre-là puisse vivre.
À long terme, le professeur Serge Ndjadi propose la mise en place des plans d'aménagement du territoire avec un schéma directeur clair, créer des zones tampons comme pistes forestières, en pensant même à la délocalisation des populations. D'autres chercheurs recommandent la mise en place des vastes plans de déforestation en tenant compte des espèces dégradées et d'autres affectées dans les forêts, les aires protégées, tout comme dans les parcs, mais aussi en considérant les programmes communautaires de déforestation et restauration des terres.
Nous vous gardons Alain Kabika, les constructions anarchiques, surtout sur les conduites d'eau de la régie des eaux, la coupe illicite d'arbres et l'insécurité font partie des facteurs qui bloquent l'accès facile des enfants de la commune de Kadutu à l'eau potable. Ceci ressort d'une rencontre organisée mardi dernier par le Centre des recherches d'études environnementales pour la paix, CREP en sigle, en faveur de près de 150 enfants et adolescents de la commune de Kadutu.
Organisée en marge de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, cette activité a permis aux participants d'évaluer les facteurs qui bloquent l'accès des enfants à l'eau potable. Au sujet de l'insécurité par exemple, il ressort du constat que plusieurs d'entre eux ont déjà été victimes de blessures, d'agressions, des cas de viol, alors qu'ils étaient à la recherche de l'eau potable loin de leur ménage. À ceci s'ajoute également l'état de vétusté dans lequel se trouvent plusieurs conduites d'eau de la régie des eaux suite aux constructions anarchiques. Pour Furaha Chitira, point focal de cette structure au sud Kivu, des efforts devraient être fournis pour faciliter aux enfants de la commune de Kadutu un accès à l'eau potable. On l'écoute.
On se demandait, est-ce que l'enfant de Kadutu a accès à l'eau, à l'assainissement de son environnement, à une hygiène favorable qui permet à ce qu'elle puisse se protéger des intempéries, des maladies qui proviennent de l'eau sale. Ils ont cité les constructions anarchiques qui bloquent les tuyaux de la régie des eaux, la coupure d'arbres. Vous savez que l'arbre a un rôle dans la protection de l'air. Et ils ont demandé aux autorités de bien vouloir veiller sur tout ce qui bloque l'accès à l'eau, à l'enfant en particulier, pour éviter les drames comme les épidémies et les autres maladies graves causées par de l'eau souillée pour leur avenir meilleur. Ils interpellent aussi les éducateurs qui peuvent intégrer aussi le thème de protection de l'environnement, de la bonne conservation de l'environnement qui favorise la protection durable de l'eau en faveur des enfants.
À cette même occasion, les participants ont été outillés sur la valorisation des déchets plastiques et textiles. Sur place, ils ont appris la fabrication des tableaux d'embellissement, des œuvres d'art et des poubelles à base des déchets textiles. L'activité s'est tenue dans les enceintes du complexe scolaire à Chouza, situé au quartier Moussala dans la commune de Kadutu sous le thème « Un environnement sain protège les sources d'eau ».
La revue de presse, Radio Mindeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le contexte particulier dans lequel a été célébrée la Journée internationale de l'enfant africain à l'est de la RDC et la colère de l'opposition après l'adoption par le Parlement de la loi sur le référendum font partie des sujets qui intéressent la presse mercredi 17 juin 2026. Hélène Goudjiriri pour la revue de presse.
Débutons avec ce titre du journal Les Souverains Libres, Sud Kivu, les enfants privés de scolarité et séparés de leur famille suite à la guerre. L'humanité célèbre la journée mondiale de l'enfant africain chaque le 16 juin de l'année. À l'est de la RDC, cette journée s'est déroulée dans un contexte marqué par les conflits armés, les déplacements des populations et la pauvreté grandissante. Les enfants sont souvent les premières victimes silencieuses des guerres qui déchirent plusieurs provinces, notent les souverains, avant de poursuivre que derrière les statistiques se cachent des réalités douloureuse. Des milliers d'enfants privés d'école, séparés de leur famille, déplacés de leur village ou contraints de vivre dans la rue. Le 16 juin, c'est la journée internationale de l'enfant africain. Le chargé des programmes de l'organisation Polenia SBL, Yangane Constant, contacté par ces médias, relève que les enfants subissent les conséquences néfastes du conflit. Il précise que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école et passent leur temps à compenser le travail de leurs parents. Ils sont souvent exploités sans aucune protection. Leur résilience doit nous interpeller et renforcer notre engagement à bâtir une société où chaque enfant pourra grandir dans la paix, la dignité et l'espoir, fait savoir et en gagne constant. Selon les rapports publiés par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, plus d'1,6 million d'enfants sont privés d'éducation dans l'est de la RDC, où des milliers d'écoles ont été fermées, détruites ou occupées à cause des violences. Pour beaucoup d'entre eux, l'école, qui devrait être un lieu d'apprentissage et de protection, est devenue un rêve lointain. L'autre sujet qui fait la une des médias en ligne est la colère de l'opposition après l'adoption par les parlements de la loi sur les référendums. Congo nouveau titre, accusé de vouloir balkaniser la RDC, de violer la constitution. L'opposition pousse Tshisekedi à la démission. Ce tri-hebdomadaire rapporte que la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, C64, passe à la vitesse supérieure après la répression de son sit-in du 12 juin. Actualité.cd. 7 sur 7.cd ainsi que les potentiel annonce qu'une grande marche nationale est fixée au 8 juillet prochain sur toute l'étendue du pays. L'objectif affiché par les leaders de l'opposition est clair. Exiger la démission immédiate du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'ils accusent des dérives constitutionnelles. De son côté, le nouvel observateur met l'accent sur les retombées internationales des dernières violences politiques. Le billet hebdomadaire revient sur la condamnation de l'organisation Human Rights Watch. Le journal détaille les bilans largement contestés du sit-in du 12 juin dernier. L'opposition parle d'une dizaine de morts ainsi que des blessés et des disparitions, tandis que le gouvernement dément fermement toute perte en vie humaine. Face à ce qu'il qualifie de répression violente, le nouvel observateur indique que plusieurs citoyens et opposants envisagent désormais de saisir la Cour pénale internationale. Face à ces attaques, la réplique du camp présidentiel ne s'est pas fait attendre. Dans les colonnes du quotidien, les phares, les secrétaires nationaux de l'UDPS sortent du silence et dénoncent une théâtralisation des opposants. Les partis au pouvoir fustigent le comportement de la coalition C64 qu'ils qualifient d'appendice de Joseph Kabila et ont délibérément bravé les forces de l'ordre avec des badauds armés.
Par ici prend fin ce radio journal. Alain Zara a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mendeleo. Au revoir.